10. Le lendemain, Eddie et Tian Jaffords partirent à la recherche d'Andy et le trouvèrent debout, tout seul, à l'intersection de la route de l'Est et de la route du fleuve, chantant à plein « Na !» fit Eddie alors que Tian et lui s'approchaient. « On ne peut pas dire « poumon ». Il n'a pas de poumon. »
« J'implore votre pardon ?» demanda Tian.
« Rien, aucune importance. » Mais, par association d'idées des poumons à l'anatomie en général, une question lui traversa l'esprit. « Tian, est-il un médecin à la Cala ?» Tian le considéra avec surprise et une pointe d'amusement.
« Pas chez nous, il dit. Les branleurs de boyaux sont peut-être très bien pour les riches qui ont le temps d'aller les voir et assez d'argent pour payer. Mais chez nous, quand on tombe malade, on va voir l'une des sœurs. »
Les sœurs d'Olitsa ?
Oui, là. Et si le remède est bon, c'est le cas en général, on se rétablit. Sinon, on va plus mal. Et pour finir, c'est la terre qui décide, vous voyez.
Oui, fit Eddie, comprenant combien il devait leur être difficile de s'occuper des enfants crânés dans de telles circonstances. Ceux qui revenaient crânés finissaient par mourir, mais pendant des années, ils ne pouvaient que se traîner.
« Chez un homme, il n'y a que 3 boîtes, de toute manière, » dit Tian, alors qu'ils approchaient du chanteur solitaire. Au loin, vers l'est, entre Calabrian Sturgis et Tonfoudre, Eddie voyait des écharpes de poussière s'élever vers le ciel bleu, alors qu'il n'y avait pas un souffle d'air là où il se trouvait.
« Des boîtes ?»«
Si fait, vrai, » dit Tian. Puis il se toucha successivement le front, la poitrine et l'arrière-train. La boîte tête, la boîte néné et la boîte à merde. Puis il éclata d'un rire franc.
Vous dites ça ? Demanda Eddie en souriant.
Eh bien, ici, entre nous, ça va, répondit Tian. Bien que je pense qu'une dame digne de ce nom préférerait qu'on parle plutôt de ces boîtes-là à sa table. La boîte pensée, la boîte cœur et la boîte raclée.
Eddie entendit
clé.
« Que veut dire la dernière ? Quelle sorte de clé vous déverrouille le cul ?»
Tian s'arrêta. Ils étaient face à Andy, mais le robot les ignorait complètement, chantant ce qui ressemblait à de l'opéra dans une langue qu'Eddie ne comprenait pas. De temps à autre, Andy levait les bras ou les croisait, improvisant visiblement des gestes sur la chanson qu'il déclamait. « Écoutez-moi, » dit Tian gentiment. « Un homme. C'est comme des couches empilées, vous intuitez. Au-dessus de la pile, il y a ses pensées, ce qui est le meilleur chez l'homme.
Ou chez la femme, dit Eddie en souriant.
Tian hocha la tête avec sérieux. Si fait, ou chez la femme. Mais on utilise le terme homme pour les deux, parce que la femme est née du souffle de l'homme, vous intuitez.
Vraiment ?
Demanda Eddie, repensant à quelques profils de féministes qu'il avait rencontrés avant de quitter New York pour l'entre-deux-mondes. Il avait du mal à croire qu'elle préférerait cette explication à celle de la Bible qui faisait naître Ève de la côte d'Adam. « Ainsi soit-il, confirma Tian, mais c'est Dame Olitsa qui a donné naissance au premier homme, comme vous le diront les vieux. Ils disent « Kan-a, Kan-ta ». Anna Oritsa. Tout souffle vient de la femme.
Alors, parlez-moi de ces boîtes.
Tout en haut, la meilleure, c'est la tête, avec tous les rêves et toutes les idées. Puis vient le cœur, avec tous les sentiments d'amour, de tristesse, de joie et de bonheur. Et
les émotions.
Tian eut l'air à la fois troublé et respectueux.
Vraiment.
« Ben là d'où je viens, c'est ce qu'on dit, alors ainsi soit-il. »« Ah !»
Tian hocha la tête comme si le concept était intéressant, mais très difficilement intelligible.
Cette fois, au lieu de se toucher les fesses, il se tapota l'entrejambe. « Dans la dernière boîte se trouve tout ce qu'on appelle le bakomala. Baiser, chier, se montrer mesquin avec quelqu'un sans raison. » Et si on a de bonnes raisons ?
Mais alors, ça ne serait pas de la mesquinerie, si ? Demanda Tian, l'air amusé. Dans ce cas, ça viendrait de la boîte cœur ou de la boîte tête.
Voilà qui est bizarre, fit Eddie, mais en même temps, il trouvait ça logique au fond. Dans son esprit, il voyait trois cajots distincts empilés proprement. La tête au-dessus du cœur, le cœur au-dessus de toutes les fonctions animales et les fureurs infondées que l'on ressentait parfois. Il était particulièrement fasciné par l'emploi par Tian du mot « mesquinerie », comme s'il s'agissait d'un repère comportemental. Cela avait-il du sens ou pas ? Il faudrait qu'il se penche sérieusement sur la question, et ce n'était pas le moment. Andy se tenait toujours là, scintillant en plein soleil, déversant ses rafales vocales. Eddie avait un vague souvenir de gosse dans son quartier, hurlant « Je suis le barbier de Séville, viens donc tâter de ma béquille !» avant de s'enfuir en courant, riant comme des idiots. « Andy !» appela Eddie, et le robot s'interrompit sur le champ.
« Allez, Eddie, je vous vois bien. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. »«
Pareil pour toi, » lança Eddie. « Comment ça ?»«
Très bien, Eddie, » répondit Andy avec ferveur. « J'aime toujours chanter avant le premier Siminan. »
Le Siminan ?
C'est comme ça qu'on appelle les vents de tempête qui soufflent avant le véritable hiver, dit Tian en tendant le doigt vers les nuages de poussière au-delà de la Hawaï. On voit le premier qui se dessine. Il sera là le jour des loups, ou le lendemain, d'après moi.
Le jour même, Sai, rectifia Andy. Quand arrive le Siminan, c'est la fin de la chaude saison, comme on dit.
Il se pencha vers Eddie. De sa tête rutilante montaient des cliquetis et ses yeux bleus clignotaient.
Eddie, j'ai tiré un nouvel horoscope très long et très complexe et il montre la victoire contre les loups, une grande et belle victoire assurément. Vous vaincrez vos ennemis et vous rencontrerez une belle dame.
J'ai déjà une belle dame, répondit Eddie en essayant de garder une voix aimable. Il savait parfaitement ce que signifiaient ces clignotements rapides. Ce salopard se moquait de lui. « Eh bien, songea-t-il, peut-être que tu riras moins dans quelques jours, Andy. En tout cas, je l'espère sincèrement. »«
Bien sûr, mais plus d'un homme marié a eu sa gueuse, comme je l'ai dit à ça, Etienne Jafford, il n'y a pas si longtemps. »« Pour ceux qui aiment leur femme, » répliqua Tian. « Je te l'ai dit à l'époque. » Et je te le redis maintenant.
Andy, mon vieux copain, dit Eddie plus sérieusement, nous sommes venus ici dans l'espoir que tu nous donnerais un coup de main la veille de l'arrivée des loups, que tu aiderais un peu, tu sais. Il y eut encore des cliquetis au fond de la poitrine d'Andy, et cette fois, lorsque ses yeux clignotèrent, ils étaient presque alarmés.
Si je le peux, saille, répondit-il.
« Oh oui, il n'y a rien que j'aime mieux qu'aider mes amis, mais il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire, même si j'aimerais vraiment. »«
À cause de ta programmation. »«
Si fait. »
Le ton plein de suffisance et de « je suis tellement content de vous voir » avait disparu de la voix d'Andy. Il avait vraiment l'air d'une machine à présent.
« Ouais,
c'est la tactique de repli, » pensa Eddie. C'est Andy le prudent, tu les as vus aller et venir, pas vrai Andy? Parfois ils t'appellent tas de ferraille inutile, la plupart du temps ils t'ignorent, mais tu finis toujours par marcher sur leurs os en chantant tes chansons, pas vrai?
Mais, pas cette fois-ci mon pote, non, pas cette fois-ci.
Quand as-tu été construit, Andy? Je suis curieux de le savoir. Quand as-tu quitté la bonne vieille chaîne de montage de chez la Merck?
« Il y a longtemps, ça y... »
Les yeux clignotaient très lentement, à présent finis de rire.
« 2000 ans ?»« Plus longtemps, je crois, ça y... »« Je connais une chanson sur le bon vin que vous devriez apprécier. Elle est très amusante. Une autre fois, peut-être.
Écoute-moi, mon vieux. Si tu as des milliers d'années, comment se fait-il que tu sois programmé concernant les loups ? Du torse d'Andy résonna un bruit métallique sourd, comme si quelque chose s'était cassé. Lorsqu'il reprit la parole, c'était de la voix morte et sans émotion qu'Eddie avait entendue pour la première fois au bord de l'entre-forêt. La voix de Bosco Bob, quand ce vieux Bosco s'apprêtait à vous tomber dessus.
« Quel est votre mot de passe, Sai Eddie ?»«
On en est déjà passé par là, non ?»«
Mot de passe, vous avez 10 secondes, 9, 8, 7... »
C'est vachement pratique pour toi, cette connerie de mot de passe, pas vrai ?
Mot de passe incorrect, Sai Eddie.
J'aime bien prendre la 5e, faut croire.
2, 1, 0, vous avez droit à un second essai. Souhaitez-vous réessayer, Eddie ?
Eddie lui décocha un sourire rayonnant. Est-ce que le Séminole souffle en été ? « Mon vieux pote !»
Nouvelle flopée de cliquetis. La tête d'Andy, qui était penchée d'un côté, se pencha de l'autre.
« Je ne vous suis pas, Eddie de New York. »«
Désolé, je ne suis qu'un pauvre faillot humain qui fait l'imbécile, pas vrai ?
Non, je ne veux pas réessayer, du moins pas tout de suite. Je vais plutôt te dire ce que nous voudrions que tu fasses pour nous aider, et alors tu pourras nous dire si ta programmation te permet de le faire ou non. »
Ça te paraît honnête ?
Honnête comme la main d'un enfant.
Ok.
Eddie prit le bras fin et métallique d'Andy. La surface en était lisse et quelque peu déplaisante au toucher, graisseuse, huileuse. Eddie ne lâcha pas prise pour autant et baissa la voix, prenant un ton confidentiel.
Je te le dis uniquement parce que tu es visiblement doué pour garder un secret.
« Oh oui, Sai Eddie, personne ne sait mieux garder un secret qu'Andy. »
Le robot se sentait de nouveau en terre inconnue et avait retrouvé tout son entrain et sa suffisance.
« Bien !»
Eddie progressa sur la pointe des pieds.
« Baisse-toi un peu par ici. »
Des servomoteurs se mirent à ronronner dans le caisson d'Andy, à l'intérieur de ce qui aurait été sa boîte cœur s'il n'avait pas été un bonhomme en fer blanc ultra perfectionné. Il se baissa. Eddie, pendant ce temps, se pencha plus avant, se sentant bêtement comme un petit garçon racontant un secret.
« Le père a rapporté des armes de notre niveau de la tour, »
murmura-t-il.
« Des bonnes !»
La tête d'Andy pivota. Ses yeux lancèrent un regard dont l'éclat très vif ne pouvait exprimer que de l'étonnement. Eddie garda un visage impassible, mais à l'intérieur il souriait de toutes ses dents.
« Vraiment, Eddie ? » ?»«
Grand merci. » « Le père dit qu'elles sont puissantes, » dit John. « Si elles marchent, on pourra les utiliser pour arracher la tête de ces loups. » Mais il faut qu'on aille les cacher au nord de la ville, et elles sont lourdes. Tu pourrais nous aider à les charger dans un bouca, la veille des loups, année.
Silence. Cliquetis d'hiver.
Il ne pourra pas, à cause de sa programmation, je parie, fit Eddie tristement.
Bon, il faudrait trouver assez de bras costauds. Je peux vous aider.
« répondit Andy.
Où se trouvent ces fusils, Saïs ?»«
Il vaut mieux ne pas en parler maintenant, » répliqua Eddie.
« Retrouve-nous la veille des loups au presbytère du père, assez tôt. D'accord ?»«
À quelle heure cela vous arrangerait-il ? » ?»«
6 heures, ça tirait ?»« À 6 heures. Et combien d'armes y aura-t-il ? » « Dites-moi au moins cela, que je puisse calculer le niveau d'énergie requise. »«
Mon ami, ce n'est pas un vieux baratineur qu'on apprend à raconter des conneries, » se dit joyeusement Eddie. Mais il n'en montra rien. une douzaine, peut-être 15. Elle pèse environ 200 livres pièce. Tu connais les livres, Andy ?
Si fait, grand merci. Une livre pèse grossièrement 450 grammes, soit 16 onces, une once de bonne humeur.
Ce sont de gros fusils, ça y est dit.
Prêts ? Seront-ils en état de marche ?
Nous en sommes certains, j'y ai dit. N'est-ce pas, Tian ?
Tian acquiesça. Et tu nous aideras ?
Si fait, avec joie, à 6 heures au presbytère.
Merci, Andy, conclut Eddie. Il reprit son chemin, puis se retourna.
Pas un mot à qui que ce soit, bien sûr.
Non, ça y est, pas si vous me dites de me taire.
Eh bien, c'est ce que je te dis. La dernière chose que nous voulons, c'est que les loups découvrent que nous avons des gros fusils à utiliser contre eux.
Bien sûr que non, confirma Andy. Quelle bonne nouvelle que celle-là!
Passez une excellente journée, Sice.
Toi aussi, répliqua Eddie, toi aussi.
11. Tandis qu'ils rentraient tous deux chez Tian à pied, il n'était qu'à 3 kilomètres, Tian demanda ce qui nous a cru.
Je ne sais pas, fit Eddie, mais cela a pris totalement par surprise.
Vous l'avez senti ?
Oui, dit Tian, oui, effectivement.
Il sera là, ne serait-ce que pour voir par lui-même, je vous le garantis.
Tian hocha la tête en souriant. Il est intelligent, votre Dean.
C'est bien vrai, acquiesça Eddie. C'est bien vrai.
12. Une fois de plus, Jake se retrouva allongé dans le noir, à fixer le plafond de la chambre de Benny. Une fois encore, Otte était couché sur le lit de Benny, la truffe sous sa queue en tortillon. Le lendemain soir, Jake serait de retour chez le père Callahan avec son cas-tête, et il mourait d'impatience. Demain, ce serait la veille des loups, mais ce soir, on n'était encore que la veille des loups, et Roland avait considéré qu'il valait mieux que Jake passe cette dernière nuit au Rocking Bee. Il ne faut pas éveiller de soupçons à si peu de temps de leur hache, avait-il dit. Jake comprenait bien, bon sang, mais c'était vraiment écœurant. La perspective de devoir affronter les loups était déjà horrible, mais imaginer le regard que lui lancerait Benny dans 2 jours était encore pire.
« Peut-être qu'on se fera tous tuer, » pensa Jake. « Alors je n'aurais plus à m'en inquiéter. » Dans son désespoir, il trouva presque cette idée attirante.
« Jake, tu dors ?» Pendant un instant, Jake envisagea de faire semblant, mais... quelque chose en lui méprisa une telle lâcheté.
Non, mais je devrais essayer, Benny. Je ne pense pas que je dormirai beaucoup demain soir.
Pas du tout, sans doute, chuchota Benny du respect dans la voix.
Tu as peur ?
Bien sûr que j'ai peur, dit Jake. Tu me prends pour qui ? Un dingue ?
Benny se redressa sur un coude.
Tu penses que tu en tueras combien ?
Jake y réfléchit. Le simple fait d'y penser le rendait malade tout au fond de son estomac. Pourtant, il y réfléchit quand même.
J'en sais rien. S'ils sont bien 70, j'imagine que j'essaierai d'en avoir 10.
Et avec un certain émerveillement, il se surprit à repenser au cou de Madame Avery, au globe jaune accroché au plafond, le ventre tapissé de cadavres de mouches fantomatiques. À Lucas Hansen, qui essayait toujours de lui faire un croche-pied quand il remontait l'allée, aux phrases décortiquées au tableau, attention aux modificateurs mal placés, à Petra Jesseling, qui portait toujours des pulls trapèzes et qui avait le béguin pour lui, en tout cas, c'est ce qu'affirmait Mike Yanko, au bourdonnement de la voix de Madame Avery, aux sorties de midi, le bon vieux déjeuner typique dans une bonne vieille école privée typique, et au début d'après-midi, assis derrière sa table à essayer de ne pas piquer du nez. Est-ce que c'était ce même garçon,
ce garçon propret de l'école Piper qui allait combattre des monstres voleurs d'enfants au nord d'une ville d'éleveurs appelée Calabrian Sturgis. Était-ce ce même garçon qui, dans 36 heures, se retrouverait peut-être allongé par terre, ses tripes fumantes entassées derrière lui, arrachées à ses entrailles par un de ces vifs d'argent? C'était possible, non? Il se rappela la gouvernante, Madame Shaw, qui coupait la croûte de ses sandwichs et l'appelait parfois « Bama ». Son père, qui lui avait appris comment calculer un pourboire de 15%. Ce genre de garçon n'était pas fait pour mourir un fusil entre les mains. Si?
« Je parie que t'en auras 20, » dit Benny.
« Bon sang, ce que j'aimerais pouvoir être avec toi. On tirerait côte à côte, pan, 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 et puis on chargerait. »
Jake se redressa et observa Benny avec une authentique curiosité.
« Tu le voudrais ? »
demanda-t-il. « Si tu le pouvais. »
Benny réfléchit. Son visage changea, parut soudain plus vieux et plus sage. Il secoua la tête.
« Non, j'aurais peur. »«
Tu n'as pas affreusement peur ?»«
Ouais. »«
Je suis mort de peur, » dit simplement Jake.
« La peur de mourir ?»«
Ouais, mais surtout la peur de tout foirer. »«
Et tu foireras pas. » »«
Facile à dire pour toi, » pensa Jake.
« Si tu dois aller avec les petits, au moins je suis content que mon père nous accompagne, » dit Benny.
« Il prendra son bas. »«
Tu l'as déjà vu tirer ?»«
Non. »«
Eh ben, il est bon. » »«
Si jamais un loup réussit à vous fausser compagnie, les mecs, il saura l'accueillir comme il faut. Il trouvera cette branchie sur le poitrail et pan !»
Et si Benny savait que cette histoire de branchie était un mensonge, une fausse information que son père transmettait avec un peu de chance, et s'il savait...
Dans sa tête, la voix d'Eddie lui répondit. Eddie, avec son foutu accent de Brooklyn, dans toute sa splendeur.
Hey, « Mais si les poissons avaient des vélos, toutes ces foutues rivières feraient le tour de France. »«
Benny, faut vraiment que j'essaie de dormir. »
Benny se rallongea, Jack en fit autant, et se remit à fixer le plafond. Tout à coup, il se sentit furieux que Té soit sur le lit de Benny, que Té se soit aussi facilement attaché à l'autre garçon. Tout à coup, il se sentit furieux contre tout. Les heures qui le séparaient du matin, du moment où il enfourcherait son poney prêté et chevaucherait jusqu'à la ville, lui paraissaient une éternité.
Jake, quoi, Benny, quoi?
Pardon, je voulais juste te dire que je suis content que tu sois venu ici. On s'est bien amusé, pas vrai?
Ouais, fit Jake.
Et il pensa, on dirait jamais qu'il est plus vieux que moi. Il a l'air d'avoir, je sais pas, 5 ans à peine.
C'était méchant, mais Jake avait comme l'impression que s'il n'était pas méchant, il allait se mettre à pleurer. Il détesta Roland pour l'avoir forcé à passer la nuit au Rocking Bee.
Ouais, on s'est amusé, beaucoup, beaucoup. Il va me manquer. Mais je suis sûr qu'ils vont mettre une statue de vous, les mecs, dans le pavillon ou quelque chose.
Mec était un mot qu'il avait emprunté à Jake et il l'utilisait dès qu'il pouvait.
Toi aussi, tu vas me manquer.
T'as de la chance de pouvoir suivre le rayon et de voyager.
Moi, je vais sans doute passer toute ma vie dans cette ville de merde.
Tu passeras pas ta vie ici. Ton père et toi, vous allez devoir errer beaucoup, si vous avez de la chance, et qu'il vous laisse quitter la ville, bien sûr. Ce que tu vas faire, à mon avis, c'est passer le reste de ta vie à rêver de cette ville de merde, de ton foyer. Et ce sera à cause de moi. J'ai vu, et j'ai raconté tout ce que j'ai vu. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre?
Jake?
Il n'en pouvait plus. Tout ça allait le rendre fou.
Dors, Benny, et laisse-moi dormir.
Ok. Benny se retourna vers le mur. Très vite, sa respiration se ralentit, puis il se mit à ronfler.
Jake resta réveillé jusqu'aux alentours de minuit,
Puis il finit par s'endormir, lui aussi. Et il rêva. Dans son rêve, Roland était à genoux dans la poussière de la route de l'Est, face à une horde de loups qui s'étendait depuis les promontoires rocheux jusqu'au fleuve et qui fonçait sur lui. Il essayait de recharger son pistolet, mais il avait les deux mains engourdies et il lui manquait deux doigts à l'une. Les balles tombaient à ses genoux, inutiles. Il essayait toujours de recharger le gros revolver quand les loups lui passèrent sur le corps. 13. À l'aube de la veille des loups, Eddie et Susanna se tenaient à la fenêtre de la chambre d'amis du père à contempler la pente douce et herbeuse en direction de la maisonnette de Rosalita. « Il a trouvé quelque chose avec elle, » dit Susanna. « J'en suis heureuse pour lui. » Eddie hocha la tête. « Comment tu te sens ?» Elle leva vers lui son visage souriant. « Bien, » dit-elle, elle le pensait. « Et toi, mon trésor ?» Ça va me manquer de dormir dans un vrai lit avec un toit au-dessus de ma tête. J'ai hâte d'en avoir fini, mais à part ça, je vais bien, moi aussi. Si les choses tournent mal, tu n'auras plus à te préoccuper du logement. C'est vrai, fit Eddie, mais je pense pas qu'elles vont mal tourner. Et toi ? Avant qu'elle pût répondre, une rafale de vent secoua la maison et se mit à siffler sous les toits. C'est le Séminon qui vient souhaiter le bonjour, devina Eddie.
Je n'aime pas ce vent, dit-elle, ça rajoute de l'imprévisible.
Eddie ouvrit la bouche.
Et si tu dis quoi que ce soit à propos du cas, je te mets un coup de poing dans le nez.
Eddie referma la bouche et fit semblant de faire glisser une fermeture éclair. Susanna s'en prit quand même à son nez, de ses phalanges aussi douces qu'une plume.
« On a de bonnes chances de l'emporter, » dit-elle.
« Ils font la loi depuis trop longtemps, alors ils ont engraissé, comme Blaine. »«
Ouais, comme Blaine. »
Elle lui posa une main sur la hanche et le fit pivoter vers elle.
« Mais les choses pourraient mal tourner, alors je voudrais te dire quelque chose tant qu'on n'est que tous les deux, » il dit. « Je veux te dire combien je t'aime. » Elle parlait simplement, sans effet.
Je le sais, dit-il. Mais je donnerais un bras pour savoir pourquoi.
Parce que tu m'as fait me sentir entière, répondit-elle.
Quand j'étais plus jeune, je balançais entre deux visions de l'amour. Parfois, je croyais que c'était ce mystère immense et radieux. Parfois, je me disais que ce n'était qu'une invention des producteurs d'Hollywood au moment de la Grande Dépression pour faire vendre des tickets quand tout le reste avait échoué.
Eddie éclata de rire. Et maintenant,
je crois qu'on est tous nés avec un trou dans le cœur et qu'on cherche la personne qui saura le remplir.
Toi, Eddie, tu m'as rempli.
Elle lui prit les mains et l'attira doucement vers le lit.
Et maintenant, je voudrais que tu me remplisses autrement. Suze,
c'est pas dangereux.
« J'en sais rien, dit-elle, je m'en moque. »
Ils firent l'amour lentement, n'accélérant le rythme que vers la fin. Elle cria doucement contre son épaule, et juste avant que son propre orgasme voile toute réflexion, Eddie pensa « Je vais la perdre si je fais pas attention.
Je sais pas comment je le sais, mais c'est vrai. Elle va disparaître, c'est tout.
« Moi aussi je t'aime, » dit-il quand ils se retrouvèrent allongés côte à côte.
« Oui, » dit-elle en lui prenant la main. « Je sais, j'en suis heureuse. »
« C'est bon de rendre quelqu'un heureux. Je ne savais même pas que ça existait. »«
Tout va bien, » dit-elle en l'embrassant au coin de la bouche. « Tu apprends vite. »
14. Il y avait un rocking chair dans le petit salon de Rosalita. Le pistolero était assis dedans, nu, une soucoupe en terre cuite dans une main. Il regardait le jour se lever en fumant.
Il n'était pas sûr de le revoir jamais se lever de cet endroit. Rosalita sortit de la chambre, nue elle aussi, et se tint dans l'embrasure de la porte à l'observer. « Comment vont tes os, je te prie ?» Roland hocha la tête. « Ton huile est une vraie merveille. »«
Ça ne durera pas. »
« Non, confirma Roland. « Mais il y a un autre monde, le monde de mes amis. Et peut-être auront-ils ce dont j'ai besoin là-bas. J'ai comme l'impression qu'on va pas tarder à y aller. Encore un combat à mener ?»«
Je crois, oui. »
« Quoi qu'il en soit, tu ne reviendras pas, n'est-ce pas ?» Roland la regarda.
« Non. »«
Es-tu fatigué, Roland ?»«
Mort de fatigue, dit-il. »« Alors reviens un peu te coucher, veux-tu ?» Il écrasa sa cigarette et se leva. Il sourit. C'était le sourire d'un jeune homme.
Grand merci.
Tu es un homme bon, Roland de Gilead. Il y réfléchit, puis secoua lentement la tête. Toute ma vie, j'ai eu les mains les plus rapides, mais j'ai toujours été un peu lent. Elle tendit la main vers lui. Viens donc, Roland. Viens, comme Allah. Et il alla à elle.